c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Et nous avons la visite de...
Désirio, c'est ça?
C'est ça.
Désirio.
Bien, merci. Merci. Alors, au sommaire de cette semaine, nous allons parler de l'Argentine, évidemment. On a entendu beaucoup parler de l'Argentine. Pas de très bonne façon, parce que nous allons voir avec ça, avec Béatrix. Nous allons évoquer la Journée internationale des femmes, de la violence contre les femmes, qui a lieu tous les 26 novembre de chaque année. Et ça a été créé suite à un tragique événement survenu en République dominicaine.
Je crois personne que c'est le sait. 25 novembre, c'est pas le 26, c'est le 25 novembre. Je crois.
25 Et même ce soir, il y a sur France 2, à la télévision, il y a une émission consacrée aussi à ce sujet. Et nous allons parler aussi de l'Europe et l'Amérique latine. C'est un communiqué de presse qui nous est arrivé exactement de Bruxelles. Oui, c'est comme ça, sur l'Amérique latine. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler justement de cette élection contestée en Argentine.
Contestée, il a été élu avec 55% des voix.
Oui, mais elle est contestée.
Le choc et les interrogations après l'élection de Javier Milei à la présidence. Le candidat anti-système a raflé 55% des voix dimanche 19 novembre dernier, face à l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa. Arrivé en tête du scrutin dans 21 des 24 provinces, Milei est le président le mieux élu depuis le retour de la démocratie en 1983. On s'attendait à une victoire, cela a été un triomphe sans appel. Dimanche 19, les partisans rassemblés devant le QG de l'ultralibéral Javier Milei à Buenos Aires ont vibré d'un grondant « liberté, liberté » répété comme un mantra, qui est en fait une formule sacrée, drapeau de l'Argentine agité en l'air. Milei, 53 ans, investi en politique depuis seulement 3 ans, a été élu président lors du second tour du scrutin, une victoire inédite et fracassante. Le candidat anti-système a obtenu donc 55% des voix dans un pays gouverné depuis des décennies par deux forces structurantes, le péronisme, du nom du général Domingo Perón, et l'anti-péronisme. Alors, et on fait une analyse qui a été faite par Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS. Cette victoire, c'est l'alliance entre trois électorats qui ont convergé pour mettre fin au péronisme, au pouvoir, analyse donc Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, en charge du programme Amérique latine. Le chercheur voit l'alliance entre l'électorat très dégagiste et antipolitique de Milei et l'électorat de la droite, les conservateurs traditionnels et le centre-droit argentin qui ont voté pour empêcher que les péronistes ne se maintiennent au pouvoir. Pour gouverner, Javier Milei aura besoin d'une alliance avec la droite traditionnelle pour faire passer ses lois. Au programme, une politique de la tronçonneuse avec des coupes claires dans les politiques publiques et le budget de l'État, difficilement conciliable avec les promesses de Milei de stopper la pauvreté en Argentine, selon Christophe Ventura.
Oui, on peut ajouter, Béatrix, que justement, il y avait eu un édito dans le journal Sud-Ouest, et là, l'éditorialiste dit son édito « Élection à la tronçonneuse ». Et dans un paragraphe de cet édito, il indique « Les Argentins sont tellement désabusés par les dirigeants qui se sont succédés et ont plongé le pays dans l'inflation et la misère » que s'il était présenté le capitaine vedette de l'équipe albiceleste Lionel Messi, aurait pu gagner dès le premier tour. Ils ont confié leur dessein à un candidat qui veut tout réduire à la tronçonneuse ou à la dynamite, aide sociale, écologie, service public de la santé ou de l'éducation, peso national. Banque centrale, bref, le système, entre guillemets, un homme suffisamment libertarien pour autoriser la vente d'armes ou d'organes sans contrôle de l'État, mais pas assez pour préserver le droit à l'avortement. Vous voyez, donc, même s'il a été largement élu, il y aura beaucoup de contestations parce que pendant la campagne, il a promis tout et rien, de faire beaucoup de choses, éliminer des ministères, surtout le ministère de la Culture, par exemple, il veut l'effacer. Et qu'est-ce qu'il va faire? D'autant plus qu'il n'a pas la majorité dans le Parlement. Donc, on va attendre quelques mois et on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais au sujet, justement, on a parlé qu'on a voté contre le péronisme. Et le péronisme, je me rappelle très bien qu'il y a plus de 40 ans, au Chili, on parlait de justicialisme, péronisme. Justicialisme vient de justice, parce que le péronisme voulait aider la classe plus pauvre, les couches plus pauvres.
Les sans-chemises, qu'ils appellent los.
Pardon?
Descamisados, les sans-chemises.
Oui, les sans-chemises. Et n'oublions pas non plus que la femme de Juan Domingo Perón, qui était une sorte de dictateur à sa façon, l'avait beaucoup aidé. Et c'est elle qui a parfois indiqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'est elle qui était auprès des descamisados, les sans-chemises, les plus pauvres. Donc, c'est important. Donc, on va faire un petit rappel de l'histoire sur le péronisme. Voilà.
Donc, en Buenos Aires, en 1945, pour conduire les Argentins sur la bonne voie, celle de la démocratie, l'ambassadeur des États-Unis, Spruill Braden, réunit tous les partis, des conservateurs jusqu'aux communistes, en un front uni contre Juan Domingo Perón. Selon le département d'État, le colonel Perón, ministre du Travail, est le chef d'une bande de nazis. La revue Look affirme que c'est un pervers qui cache dans les tiroirs de son bureau des photos d'Indiennes de Patagonie nues et des portraits de Hitler et de Mussolini. Perón parcourt à vive allure le chemin qui le mène à la présidence. Il se montre au bras d'Evita, une actrice de radio-théâtre à la voix pénétrante. Et lorsqu'il est fatigué ou pris de doute, c'est elle qui le mène. Perón rassemble plus de gens que tous les partis réunis. Quand on le traite d'agitateur, il répond que c'est un honneur. Les gens qui sont toujours tirés à quatre épingles scandent le nom de l'ambassadeur Braden dans les rues de Buenos Aires, mais dans les quartiers ouvriers, la foule de los descamisados... Les sans-culottes, les sans-chemises, pas sans-culottes, ça c'était à une autre époque, crient le nom de Perón. Le peuple des travailleurs, exilé sur sa propre terre, muet à force de se taire, trouve une patrie et une voix dans la personne de cet étrange ministre qui est toujours de son côté. Le prestige populaire de Perón croît et croît à mesure qu'il dépoussière les lois sociales oubliées ou qu'il crée de nouvelles. C'est à lui qu'on doit le statut qui oblige à respecter les droits de ceux qui s'éreintent à travailler dans les exploitations agricoles et les plantations. Et ce n'est pas un statut qui se contente de rester sur papier. Ainsi, le peon, considéré comme un quasi-chose, devient un ouvrier agricole avec un syndicat et le reste.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et donc, nous allons parler de la journée internationale contre la violence envers les femmes, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui. Le 25 novembre 1960, trois femmes dominicaines, les sœurs Mirabal, furent assassinées sur les ordres du dictateur Rafael Trujillo. le 19 octobre 1999, lors de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les représentants de la République dominicaine et 74 États membres ont présenté un projet de résolution visant à faire du 25 novembre la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La résolution 54-134 a été adoptée le 17 décembre 1999. Les sœurs Mirabal ont été assassinées parce que femmes et activistes. Leur seul crime aura été de se battre pour leurs droits contre le dictateur Rafael Trujillo, qui est en 1930 à 1961. Lors des visites à leurs maris respectifs à la prison de Puerto Plata, les sœurs Mirabal évoquèrent le fait que des bruits circulaient sur la possibilité qu'elles pourraient être victimes d'un accident de la route, un classique qu'utilisé le régime quand il ordonnait la disparition d'un adversaire important avec l'intention de dissimuler le crime. Le 25 novembre 1960, les sœurs Mirabal quittèrent Puerto Plata à bord d'une jeep en direction de leur maison, mais elles furent arrêtées par un autre véhicule à coups de rafales de balles. Amenées loin de la route dans un endroit discret, elles furent assassinées. Leurs corps furent replacés dans la jeep qui les transportait pour être ensuite jetés du haut d'un précipice qui bordait la route.
Oui. Et il faut préciser plus d'infos qu'un musée en leur mémoire a été érigé donc, en République dominicaine, un endroit qui s'appelle Salcedo. Un billet de 200 pesos imprimé et distribué depuis 2007 porte l'effigie de trois sœurs assassinées. Un téléfilm a été réalisé en 2001. Et donc, comme vient de dire Béatrice, le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé une journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà donc ce que nous pouvons dire, évoquer cette qui vient de la République dominicaine. Et ça aussi, on ne l'insiste pas beaucoup. Ce soir, vous pouvez regarder l'émission à la envoyé spécial et consacré à ce sujet. Et un peu d'histoire, on a parlé de ce dictateur Rafael Leónidas Trujillo et nous allons constater à travers ses regards vers cet dictateur qu'il s'est approprié presque de tout le pays et grâce à en partie suite à l'occupation de la République dominicaine par l'armée des États-Unis. Voilà.
En 1936, donc, République dominicaine. Le nom de la capitale de la République dominicaine est corrigé. Santo Domingo, baptisé ainsi par ses fondateurs, s'appellera désormais Ciudad Trujillo. Le port aussi s'appelle maintenant Trujillo. Et nombreux sont les villages, places, marchés et avenues qui sont rebaptisés Trujillo. Le dictateur, donc Rafael Trujillo, infatigable fléau de rouge et d'hérétique, est né de l'occupation par l'armée des États-Unis. D'une grande modestie naturelle, il accepte néanmoins que son nom figure sur les plaques de toutes les automobiles du pays et son portrait sur tous les timbres-postes. Son sens des responsabilités l'oblige à désigner lui-même les ministres et les concierges, les évêques et les reines de beauté. Pour stimuler l'esprit d'entreprise, Trujillo accorde à Trujillo le monopole du sel, du tabac, de l'huile, du ciment, de la farine et des allumettes. Pour défendre la santé publique, Trujillo fait fermer tous les commerces qui ne vendent pas la viande provenant des abattoirs de Trujillo ou du lait de ses étables. Et pour des raisons de sécurité publique, il rend obligatoire les assurances que vend Trujillo. Tenant d'une main ferme le gouvernement du progrès, Trujillo exonère d'impôts les entreprises de Trujillo, irrigue ses terres, les dote de routes et fournit des clients à ses usines. Par ordre de Trujillo, propriétaire de l'usine de chaussures, quiconque ose marcher pieds nus dans n'importe quel village ou ville du pays est passible de prison. Le Tout-Puissant a une voix de faussé, mais il ne discute jamais. Au dîner, il lève son verre et trinque avec le gouverneur ou le député qui finira au cimetière après le café. Quand une terre l'intéresse, il ne l'achète pas, il l'occupe. Quand une femme lui plaît, il ne la séduit pas, il la désigne.
Oui, ça on l'a appris des livres d'Eduardo Galeano, donc. Mais il y a beaucoup d'ironie dans cet article écrit par cet grand écrivain uruguayen, Eduardo Galeano. Maria, Maria. Mais nous allons parler aussi d'un sujet plus agréable, plus positif, on peut dire, sur l'Europe et l'Amérique latine, n'est-ce pas? C'est un communiqué de presse qui nous est arrivé de Bruxelles.
Oui, le Conseil de l'Union européenne, mardi 21
de cette semaine.
Novembre là, de cette semaine, oui. Le Conseil a approuvé des conclusions sur les relations entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes, dans lesquelles il souligne qu'en unissant leurs forces, l'UE et l'Amérique latine et Caraïbes, l'abréviation ALC, peuvent faire une différence significative dans la promotion d'une croissance durable en construisant des pays justes et faire progresser la paix et la sécurité, le multilatéralisme inclusif et l'ordre international fondé sur des règles. Le Conseil se félicite de la feuille de route birégionale 2023-2025 présentée lors du sommet de juillet dernier. Les conclusions soulignent qu'au niveau multilatéral, l'UE et l'ALC sont des partenaires naturels et devraient renforcer davantage leur coopération pour relever les défis régionaux et mondiaux, notamment les crises climatiques et environnementaux mondiales. Le Conseil reconnaît l'importance de renforcer et de développer les échanges commerciaux entre l'UE et l'ALC, grâce à la pleine mise en œuvre des accords existants et à la ratification des accords signés. Le Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, donc, se félicite de la signature imminente de l'accord modernisé entre l'UE et le Chili, attend avec impatience la finalisation rapide de l'accord modernisé avec le Mexique et prend note des travaux en cours entre l'UE et le Mercosur.
Oui, et donc c'est bien, Béatrix, on va arrêter là parce que le temps passe vite. Et c'est curieux comment il y a parfois beaucoup de projets, beaucoup de des projets justement qui ne se réalisent presque jamais. J'ai eu la chance d'assister parfois à des sommets il y a très longtemps, et beaucoup de choses, de bons souhaits pour l'échange, mais parfois c'est très très limité. Mais voilà, donc nous allons écouter plutôt de la musique. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec des élèves qui vont venir présenter certains aspects de l'Amérique latine, des élèves qui viennent de Salignac et Vigue. Voilà, donc c'est très intéressant de découvrir des aspects à travers de la jeunesse. Merci à Béatrice qui nous a livré des informations sur ce continent et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.